Salut, tu écoutes Match Après Match.
Salut à tous, bienvenue dans mon salon. C'est un plaisir de vous retrouver fidèle au poste. On est en direct sur Blue Zoom. On est évidemment aussi sur notre page YouTube Blue Sport FR. Vous êtes déjà nombreux à nous avoir rejoints. Et puis salut à toi si tu nous écoutes en podcast à partir de tous les lundis matins. Ce soir, notre invité, c'est Paolo Tramezzani, entraîneur d'Iverdon Sport. Buonasera, mister. Benvenuto.
Merci, Dani. Je suis content d'être ici avec vous.
C'est un plaisir de vous accueillir. On se réjouit d'échanger avec vous. Et pour vous, on a choisi un plateau 100% italophone. Giacomo Notari est là et Stefano Lingua est également là. Steven Long, salut.
Perfetto. Buonasera a tutti.
Bonsoir, bonsoir les gars. Alors, mister, pour que tout soit clair et le plus limpide possible, vous allez vous exprimer en français. N'hésitez surtout pas à parler en italien, switcher dans votre langue maternelle. C'est là qu'on s'exprime évidemment le mieux. On est une grande famille à Blue. On ne vous en voudra jamais si vous parlez en italien. On est là pour traduire. D'accord, les gars? On y va? On y va comme ça. Le programme pour vous, eh bien, évidemment, ce soir, on va parler de du match nul entre je retrouvais pas la caméra, entre Servette et Sion à Tourbillon. On va évidemment aussi parler de la défaite de Lausanne à Winterthur, une défaite sans véritable conséquence puisque Zurich a aussi perdu contre Bâle, carton du FC Bâle, exactement comme Lucerne face à IB, un carton aussi cet après-midi. On reviendra sur une semaine formidable en Champions League avec une qualité de match assez exceptionnelle. Mais on commence par le débrief de la rencontre entre Yverdon et Getse. C'était samedi soir au stade municipal, défaite 2-1. Deuxième défaite à domicile consécutive. Deux poteaux, deux buts encaissés sur balles arrêtées, sur des duels aériens. Parfois le foot, c'est un peu étrange et un peu cruel. Pour toi, Steven, ou pour toi, Giacomo, là on est plus sur quelque chose de cruel ou plutôt sur quelque chose d'étrange sur le match d'hier soir?
Cruel, je dirais cruel, parce que finalement c'est sur des épisodes, il y a cette faute de main qui mène au coup franc, il y a le corner, il y a le but, et puis Yverdon touche les montants, et encore une fois, comme c'est le cas sur ces dernières semaines, propose des choses dans son jeu et a une attitude d'équipe qui est plus sûre de ses forces et qui est davantage capable de faire mal à ses adversaires, sauf que la différence par rapport aux dernières confrontations directes, je pense aux deux contre Winterthur qui avaient été remportées les deux, c'est que cette fois-ci, il n'y a pas de match nul, il n'y a pas de victoire, il y a même une défaite, et ça c'est le opérations et forcément on ne peut pas l'exclure de l'analyse parce qu'à la fin c'est zéro point et maintenant tout ce qui va arriver ça sera des confrontations directes donc il faut être capable de transformer ses prestations en points.
Ouais. Paolo, 24 heures après cette défaite, comment vous l'expliquez vous en tant que coach de cette équipe d'Yverdon?
La désillusion elle est grande par la performance de l'équipe, il n'est pas seulement le match d'hier.
Ouais, c'est vrai.
Mais je pense que l'équipe il est bien, il est confiant, il joue avec grand courage contre toute l'équipe. Et je pense que nous pouvons prendre une bonne réaction pour continuer ce que nous faisons tous les jours.
Oui, et il y a plusieurs personnes, plusieurs fans d'Yverdon qui sont là sur la page YouTube, qui nous ont aussi envoyé des questions sur Instagram. Vous avez mentionné justement ces bonnes performances contre... On peut dire Servette contre IB, par exemple. Et les fans sont un peu inquiets sur le côté offensif. Vous capitalisez pas vos occasions. Vous êtes inquiet pour ça ou le fait que vous ayez quand même des occasions, ça vous préoccupe pas?
Non, je suis pas préoccupé. L'important, je regarde l'équipe tous les jours. Comme l'équipe la travaille, comme l'équipe la dans le terrain, tous les joueurs viennent pour améliorer. Et je pense que tu peux voir comme l'équipe les derniers deux mois elle a changé complètement, elle est importante et nous savons bien que nous avons besoin de faire les points.
Les points, oui, exact.
Les points. Nous avons de trouver le mix avec notre football et pour prendre tous les points qu'il est possible.
Mais moi, je suis pas forcément inquiet pour... Pour Yverdon, bien sûr que cette défaite fait mal face à Getse, parce que maintenant les sauterelles se rapprochent un petit peu. Mais j'étais sur le plateau d'ailleurs face à IB. J'étais impressionné du jeu, et pas parce que Paolo est là, on est aussi critique quand il faut l'être, mais j'étais impressionné par le jeu d'Yverdon. C'est un jeu qui est posé, où il y a beaucoup de qualité. Un jeu, je trouve, plus vertical qu'avec Mangiarati, où on va plus vite vers l'avant. Et voilà, des ailiers qui prennent la profondeur, Varoltazar qui aurait dû marquer. Comme tu l'as dit, il faut être plus tueur devant le but. Pour moi, ce qui est le plus important quand on est coach d'une équipe, c'est d'avoir les occasions. Après, ça peut très vite switcher, et si les attaquants ont le déclic, d'un coup, ils marquent 2 ou 3 buts par match, mais c'est une équipe, moi, qui me plaît. Après, bien sûr que le match face à Getse, celui-là, fallait malheureusement pas le perdre. Ouais.
Parmi les nouveautés aussi, depuis l'arrivée de Paolo, il y a ce pressing, ce jeu sans ballon, aller chercher l'adversaire haut sur le terrain, ce qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir avant. On a vraiment une équipe qui est plus en action qu'en réaction.
Non, clairement, elle va chercher son adversaire, elle est capable de faire du jeu. Là, quand tu vas faire du jeu au Wangdorf sur un terrain synthétique, là où tout le monde a eu du mal en 2025.
Ou à Genève contre Servette.
Ça veut dire beaucoup de choses. Servette qui était sur une énorme série, tu mets fin à cette série. Donc, on voit dans l'attitude, même dans le discours des joueurs qui disent que voilà, ils ont cette envie d'être moins spectateurs et davantage acteurs. Et je pense qu'on peut clairement dire que la manière de jouer d'Yverdon a progressé par rapport à ces dernières années. Maintenant, moi, la question que je me pose, et peut-être entendre Paolo là-dessus, par rapport au fait que maintenant arrive la phase de la saison où, encore moins que pendant toute la saison, il ne faut pas être beau, il faut être efficace. On voit des équipes comme Grasshopper, comme Winterthur qui jouent leur survie pour rester dans la ligue et qui ne font pas le plus beau jeu. Mais par exemple, hier, elles gagnent. Maintenant qu'arrive cette fin de saison, est-ce que ça vous inquiète un petit peu d'avoir parfois des situations comme ça a été le cas hier où vous êtes meilleur jeu, mais à la fin, ce n'est pas vous qui avez les points?
Oui, mais c'est normal. Nous savons tout ce qu'il a dit, je suis d'accord avec toi. Nous savons que nous avons des limites, qu'elles peuvent être limites mentales, d'attention, de concentration, y compris bien le match, rester dans le match, donc prendre le risque. Comme hier, nous avons seulement reçu un tir.
Un tir
en 20 minutes. Il est un peu désolant.
Ouais. C'est une déception.
C'est frustrant.
Frustrant, ouais.
Mais Paolo, il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Est-ce que ça manque un peu d'expérience? C'est peut-être une équipe un peu trop jeune pour cette fin de saison où il va falloir se sauver en Super League.
Oui, l'expérience, il est important. Pourquoi les derniers 6 matchs, ils sont cruciaux. Tous les matchs et tous les ponts. Mais je savais bien, quand je suis arrivé, qu'il n'est pas facile. Je ne suis pas spaventato.
J'ai pas peur.
J'ai pas peur de nul. Pour moi, c'est une situation normale. J'avais pris beaucoup de situations comme...
Même pire. On peut dire que c'était...
Pour moi, c'est normal. J'ai peur de dormir bien, mais je dorme bien pour que je vois que l'équipe... Il est...
Qualité.
Il a la qualité, mais il a un caractère extraordinaire. Il n'a pas peur.
Il n'a pas peur.
Il n'a pas peur de jouer contre, non. Contre IB, contre ouais. Lugano, contre Servette. Et je pense qu'à la termine de la saison, nous pourrons prendre tout ce que nous méritons.
Ouais. Mais que ce soit en haut ou en bas, c'est les derniers matchs qui arrivent, et il faut bien gérer la pression, bien sûr, mais les équipes qui vont réussir à mieux gérer la pression, à être sereine et à être performante vont de toute façon faire des points, que ce soit Bâle devant ou Servette et en bas, voilà, Winterthur qui doit aussi essayer de revenir, Grasshopper et Yverdon et Sion aussi. Ouais.
On a plusieurs questions sur YouTube. Pourquoi, question de Ricardo, pourquoi vous n'avez pas fait de changement plus tôt hier? Et plein de messages de Flavio et de Fabio qui sont des immenses fans. Ils sont jumeaux, je crois. Ils sont immenses fans d'Yverdon. Ils vous disent merci, ils vous disent bonjour, ils vous remercient pour votre arrivée. Mais on revient à la question de Ricardo. Pourquoi vous n'avez pas fait des changements plus tôt dans la partie hier?
Perché non ho fatto cambi?
Cambi più presto nella partita di ieri.
Ma semplicemente perché fino al momento che loro facevano il gol, il secondo tempo li abbiamo dominati, sotto tutti i punti di vista. E quindi non mi sembrava assolutamente una squadra che avesse bisogno di cambi, che avesse bisogno di più qualità, che fisicamente eravamo calati. Noi fino al gol loro, per mezz'ora del primo tempo, c'è stata solo una squadra in campo. E quindi sui cambi io poi ho la mia idea. Cioè il cambiare perché ho a disposizione 5 cambi, il cambiare per... Cambi se c'è bisogno di cambiare. Io sono molto concreto su queste cose qua. Cioè, cambio quando vedo, quando sento che la mia squadra ha bisogno di un cambiamento. Cambio se so che posso fare qualcosa di meglio di quello che mi fanno vedere i ragazzi. Quello che hanno fatto ieri il secondo tempo è stata una cosa straordinaria.
Tu vuoi che faccia la traduzione?
Réponse très pragmatique. Donc, il ne change pas pour changer. Ça, c'est la première chose. Et puis, hier, il n'avait pas ressenti le besoin de faire des changements parce que son équipe n'était pas dominée jusqu'à ce but-là. Donc, il ne change pas pour changer. La réponse pour Ricardo. Il y a plusieurs questions sur des joueurs, Mister, qui ne sont plus forcément sur la feuille de match. Entelo, Tavares... Et puis forcément aussi une question sur Boris Cespedes, qui des fois joue pas, à un moment donné était là ou était pas là. On commence peut-être par Boris. Boris Cespedes, cette question, vous vous y attendez forcément.
Boris si sta allenando benissimo. Ieri gli ho fatto i complimenti davanti alla squadra. Le ultime due o tre settimane si sta allenando bene. Quando è iniziato con me la stagione ha avuto un problema fisico in ritiro quando eravamo in Portogallo, poi ha avuto ancora dei problemi. Boris lo considero un giocatore importante come considero tutti i giocatori importanti.
Joueur très important Boris qui a commencé l'année un peu blessé lors du stage au Portugal, il a fait les compliments à cette Boris semaine. Hier devant toute l'équipe. Et puis pour Tavares, Entello, question de Fabio.
Io faccio delle scelte, ho 27 giocatori e ti assicuro che le mie scelte non sono condizionate né dalla mia società né dai giornalisti né dagli agenti né dai tifosi. Posso fare delle scelte sbagliate, di questo me ne rendo conto, cerco di sbagliare il meno possibile perché cerco di fare delle scelte oneste. Le scelte vengono fatte, vedo tutti i giorni i miei giocatori, li vedo quando arrivano, li guardo in faccia. Mi alleno, ci parlo, mi confronto con loro, condivido, poi faccio delle scelte. E credimi, nella mia testa, quando faccio le scelte dei primi 11, perché penso che quelli siano gli 11 migliori per quella partita.
Sì, è una tematica che abbiamo molto spesso discusso qua, per gli altri allenatori che sono venuti, abbiamo sempre avuto la sensazione che le scelte erano fatte sopra. On a souvent discuté de ça, du fait que c'est lui qui choisit l'équipe, c'est personne, ni les fans, ni les dirigeants, ni les agents, et ni les joueurs qui lui disent qu'il doit mettre sur le terrain. On a souvent reproché ça à Yverdon. On a souvent eu la sensation que c'était pas forcément le coach qui faisait l'équipe. Là, on voit, en tout cas, on a la preuve que c'est le cas.
Je pense pas qu'un Paolo Tramontani va se laisser diriger. Après, c'est vrai que on a souvent tendance à penser qu'à Yverdon, on décide un peu plus haut. Après, Paolo, on s'est affronté, mais on connaît ton caractère. Je pense pas que tu vas accepter que peut-être le président ou le directeur sportif te dise tu dois mettre lui ou pas, parce que voilà, c'est pas dans ton caractère. Pour revenir sur Boris Cespedes, que nous on connaît un peu aussi, et puis on sait que c'est un très bon joueur. Ce qui fait parler, c'est qu'on aimerait aussi, je pense, de l'extérieur voir l'entente entre deux joueurs très techniques comme Marquezano et Cespedes. D'ailleurs, on l'a vu sur un but. Après, encore une fois, quand on voit la performance de l'équipe à Berne et à Servette, ça te donne raison parce que tu as aussi beaucoup de qualité au milieu de terrain. Mais je pense que c'est ce qui fait parler parce que Boris Cespedes et Marquezano, les deux leaders techniques d'Yverdon.
On peut dire que Yverdon a quand même l'un des plus beau milieu de terrain de Super League en termes de qualité, en termes de volume de jeu, en termes de tout. À chaque fois qu'il y a un match d'Yverdon, moi, le milieu de terrain m'impressionne.
Moi, je suis bluffé et pour le coup, je suis aussi de l'idée qu'un Cespedes a été tellement bon au premier tour qu'on est tous un peu étonnés de le voir maintenant sur le banc ou pas du tout sur la liste. Mais quand on voit le milieu de terrain actuel d'Yverdon, pour moi, c'est le point fort. Wegowski, qui est vraiment en maestro, très très bon. Baradji et Silla, c'est vraiment des bonnes surprises. Silla, hyper jeune, 19 ans, je crois. Ouais. Et c'est vraiment des 18, ouais, c'est des joueurs complémentaires, talentueux et qui sont aussi qui osent prendre des risques malgré que ce soit des jeunes et qui ont de la personnalité. Je parlais d'expérience tout à l'heure pour le maintien. Ce sont tous des jeunes joueurs, mais qui ont déjà, voilà, pas peur de prendre l'initiative parce que ce sont des cadres, je pense, petit à petit, en tout cas deux d'entre eux, Baradji et Wegowski, des cadres de l'équipe, et malgré leur jeune âge, ils prennent les responsabilités sur le terrain. C'est clairement la satisfaction, je pense, jusqu'à présent, c'est trois au milieu en 2025.
C'est des joueurs, Paolo, que vous risquez de perdre, ces joueurs de qualité, là, au milieu, pendant le mercato. On imagine que voilà, il y a des gens qui voient ces joueurs, il y en a qui sont en prêt, il y en a qui vont peut-être avoir du mercato.
Prima di tutto io sono molto contento se i giocatori che allenano hanno possibilità di andare a migliorare la loro carriera e questo mi fa piacere perché la cosa che mi piace di più del mio lavoro è migliorare i miei giocatori, cioè la base del mio lavoro nasce su migliorare individualmente i miei giocatori tecnicamente, tatticamente, mentalmente e quindi sapere che hanno delle richieste mi fa piacere per loro, poi è il club che deciderà cosa fare eventualmente su queste cose. Il mio lavoro a un certo punto finisce ed è giusto che poi questi pensieri, queste considerazioni le facciano altre persone.
Ah oui, il faut que je traduise. Il est très content, j'allais passer à une autre question, il est très content évidemment de voir que ses joueurs, certains joueurs ont du mercato, parce que ça fait partie de son travail de faire, d'améliorer les joueurs qu'il a. Et après, au bout d'un moment, eh bien, évidemment que son travail se termine là, puis c'est le travail des dirigeants. Question pour Steven et Giacomo Guedes, Somboyong et Iran Kunda quand même, suspendu hier. Il y a aussi quand même la blessure de Ndengue. Et finalement... Moi, j'ai l'impression que Yverdon a laissé passer une jolie chance d'aller chercher trois points sans trois joueurs très, très importants dans cette équipe. Votre avis ?
Mais surtout sur le papier, parce qu'on a un Yverdon qui a été en démonstration presque au Vangdorf et qui a été mal payé une semaine plus tôt. On a un Guedes un peu plus à la peine. Hein. On disait cette équipe dure à jouer, qui prenait souvent des points à droite à gauche, qui là était un peu plus en difficulté, notamment à l'extérieur. Ils arrivent sans leurs deux meilleurs buteurs, avec Ndengue qui se blesse direct sur un terrain difficile. Toutes les équipes qui viennent au municipal, même si ce n'est pas une forteresse comme ça l'a été la saison dernière, ont du mal. On se dit, sur le papier, c'est parfait pour Yverdon. Yverdon a gagné ses dernières confrontations directes, notamment les deux contre Winter Tour, et c'est là, je reviens à mon inquiétude que je mentionnais tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle avait de plus, cette équipe de Guedes? Alors certainement un peu de réussite, parce que les deux buts viennent sur balle arrêtée, des meilleurs joueurs sur balle arrêtée, un super tireur de balle arrêtée, Giotto Morandi, qui aussi, il n'y a pas beaucoup d'équipes de Super League qui l'ont, mais après, voilà, je me dis, est-ce que c'est un peu la roublardise, est-ce que c'est un peu l'expérience de se retrouver dans ces situations délicates, savoir en fait, en début de saison, que tu vas jouer cette place de Bargis contre la relégation, je ne sais pas, mais c'est clair que ça n'a pas matière à me rassurer ce que tu dis, Daniel.
Merci, Mister, d'avoir redonné vie à l'équipe, dit Loïc. Et puis Joe sur Instagram vous demande quelle est votre recette. Vous avez un peu révolutionné quand même, Yverdon. Quelle est stata la ricetta per dare un altro viso, un altro viso a questa squadra?
Una ricetta non c'è, però ti posso dire gennaio, partiamo per il tiro in Portogallo gennaio, le prime tre settimane mi sembrava un incubo. Perché mi sono reso conto? Perché pensavo fosse difficile, all'inizio l'ho vista ancora più difficile di quello che poi in effetti è stata. L'inizio è stato difficile perché l'impatto che ho avuto con i giocatori è stato molto forte, molto energico, però molto vero, molto sano, molto onesto, molto genuino. E tanti giocatori ho dovuto metterli in difficoltà perché capissero le cose, ma l'ho fatto sempre per il loro bene, nei loro interessi. E poi le cose sono venute tramite il lavoro, tramite gli allenamenti, tramite la convinzione, le buone prestazioni, i punti poi sicuramente hanno aiutato tanto. E quello che io vedo oggi, negli ultimi due mesi, vedo che è una squadra che è cambiata. La cosa che poi mi piace di più è che vedo che è una squadra che mi rappresenta, che rappresenta il mio calcio, che rappresenta il mio spirito, il mio carattere.
Alors, ouais, il voit une équipe qui lui ressemble, qui ressemble à son caractère, à sa manière de voir le football. Il dit aussi que quand il est arrivé, dans les trois premières semaines, il a eu l'impression que c'était une sorte de cauchemar parce qu'il pensait que l'équipe était en difficulté, mais pas autant que ça. Ça va répondre à plusieurs questions qu'on a aussi reçues sur Instagram et sur YouTube, sur l'état du vestiaire à son arrivée, sur quelle est sa recette, sur comment il a réussi à donner un nouveau visage à cette équipe-là. Je crois qu'on est OK sur cette partie Yverdon, parce qu'il faut quand même qu'on avance un petit peu. Il y a quand même une seule question que j'aimerais encore vous poser, Paolo, avant d'entendre les joueurs qui parlent de vous, parce que vous avez beaucoup parlé de vos joueurs, mais on va entendre les joueurs parler de vous. Vous avez tellement de cultures différentes, de langues différentes dans ce vestiaire. Comment vous gérez la mixité culturelle dans le vestiaire d'Yverdon ?
Allora, la fortuna è che con alcuni parlo italiano, con alcuni provo a parlare francese, ma spesso la lingua comune è l'inglese. Sono abituato, allenato in sette paesi diversi, quindi questo mi facilita nella comunicazione. Poi una parte anche bella, perché ognuno ha il suo mondo, la sua storia, le sue abitudini, la sua cultura, le sue religioni, il suo credo, quindi è una parte che mi arricchisce molto anche a livello personale. Ouais. Sì, sì.
Ah ouais. Au niveau personnel, c'est très important aussi pour lui, c'est très enrichissant parce qu'en fait, il y a des cultures, des religions différentes, des langues différentes, des personnalités différentes qui rendent tout ça finalement très très beau et très très intéressant à vivre. On n'en a aucun doute, on vous l'a dit, on écoute maintenant deux joueurs d'Yverdon au sujet de leur mystère.
Il a apporté une énergie, il a apporté une âme qu'il n'y avait pas, il nous a transformés. Et on le voit sur le terrain, quand on domine face à des grosses équipes comme IB, quand on doit gagner ces matchs-là, c'était une situation qui n'était pas la même il y a 6 mois. Donc bien sûr, on est tous heureux de ça, mais maintenant, il faut gagner les matchs.
Mais il nous apporte cette grinta. On peut voir, l'équipe a changé de physionomie. On est sur le bon chemin. on est vachement plus offensif, on va presser haut, on se sent fort. Mais voilà ce qui tout ce qui nous apporte. En soi, je peux vous dire que la route il nous l'a tracée et on a juste à la suivre. Maintenant c'est à nous de faire le taf quoi. On a juste à suivre. Et aujourd'hui c'est les petits détails, mais il le dira lui-même. C'est les petits détails qui font que pour le moment il y a quelques petits couacs. On est sur le bon chemin, mais les détails. On n'est pas tueur dans l'autre surface et chez nous on prend que des coups de pied arrêtés. Donc à un moment, c'est les petits détails qui font que aujourd'hui on se fait rattraper. De toute façon, je l'ai dit, on va lutter jusqu'au bout. Ceux qui ont cru qu'on n'allait pas lutter jusqu'au bout se sont trompés. On va lutter jusqu'au bout.
Voilà, c'est assez clair, c'est assez franc de la part de Paul Bernardoni. Toujours un très très bon client, hein, Paul Bernardoni. On adore.
Excellent les interviews.
Phénomène.
Ouais, c'est. Allez-y.
Io lo chiamo fenomeno.
Fenomeno.
Perché quando c'è lui dietro, io so che fargli gol è impossibile. Ouais. E la confidenza che dà anche alla squadra. Perché tante volte nel calcio si pensa, fai gol, hai fiducia. Però in alcune situazioni, una squadra come la nostra, il non prendere gol tante volte ci ha dato la stessa fiducia.
Très important de pas prendre de gol, c'est beau de marquer des gols, ça donne de la confiance, mais ne pas prendre de gol, ça prend aussi beaucoup.
È la stessa confidenza.
C'est un de vos leaders, c'est un des piliers du vestiaire, uno dei pilastri, un leader dello spogliatoio.
Sì, perché si mette a disposizione della squadra. Tutto quello che fa, lui lo fa per la squadra. Questo, cioè, quando parlo di leadership, la prima cosa cui riconosci un leadership è quello che fa per se stesso e non sei un leader, o quello che fai per i compagni di squadra, le persone che hai vicino. È lì che ti definisce quello che sei. E lui, per me, è il portiere più... Ce ne sono i bravi portieri, ma non lo cambierei con nessuno.
Non changerai pas Paul Bernardoni pour rien au monde avec aucun autre gardien. Paolo, on fera une petite parenthèse, une interview de vous, mais je vous propose d'abord, si vous êtes aussi d'accord, vous et vous, chez vous, bien de parler un petit moment de la rencontre de Tourbillon. C'est Elodie Croza qui est avec son équipe pour le débrief de Sion Servette.
De retour ici à Tourbillon après le match nul dans le troisième derby du Rhône de la saison avec Johan Lonfa, Alexis Antounès. Merci de venir avec nous et de nous consacrer un petit peu de temps pour match après match. De la déception, on imagine, malgré les chants des supporters Grenat derrière vous. Après ce match nul, il y avait quand même mieux à faire aujourd'hui pour Servette.
Bien sûr, je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire. On a eu des occasions, on ne les a pas mises. Ils ont marqué et puis bon, on a quand même assez vite réagi. Je pense qu'on aurait pu gagner ce match, mais voilà, il faut savoir pas perdre. Et puis on prend un point, on va essayer de faire mieux au prochain match.
Johan, ça a mis du temps à s'emballer ce match. On était quand même déçus de devoir attendre si longtemps avant de voir un petit peu de folie, de voir une étincelle.
Oui, c'est vrai que pour un derby, on sait très bien les antagonismes entre les deux équipes. Et puis surtout dans les enjeux qu'il y avait aujourd'hui, je pense que... Est-ce que vous avez vu quand même que Bâle... Caracol a gagné hier. Est-ce que ça, vous pensez que ça vous a mis un petit peu de pression dans l'approche du match ou vous avez fait totalement abstraction de ça?
Non, je pense qu'on a fait... je pense que certains ont regardé le match. Moi, j'ai regardé le match de Bâle hier. Mais ça ne nous a pas mis de pression. Et voilà, nous, on est vraiment concentrés sur nous, concentrés sur ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, voilà, pas tout nous a réussi, mais il faut garder le positif de ce match et puis garder le positif pour le prochain match aussi.
Alexis, à titre personnel, c'était votre retour depuis votre blessure début mars. Vous étiez très présent dans le jeu. Comment vous vous êtes senti?
Physiquement, je me suis senti assez bien. Je ne pensais pas que j'allais jouer autant de temps, mais j'ai tenu, donc je suis assez content de ça. Après, voilà, j'espère être encore plus en forme pour le prochain match.
Oui, précieux, hein, Johan, Alexis Antounès dans le jeu de Servette.
Oui, parce qu'on savait que ça allait être un match serré pour Servette, que Sion allait essayer de défendre en bloc bas. Et puis là, le fait que vous soyez resté le plus longtemps possible dans le match, parce que vous avez ce côté un petit peu imprévisible, le côté de la dernière passe, savoir créer aussi du danger par cette dernière passe, ce côté un petit peu aussi électron libre, ça, Servette en avait vraiment besoin aujourd'hui. Et puis je pense que c'était important pour Servette que vous teniez la distance.
Ouais, c'était important que je puisse jouer aussi un maximum de temps possible pour aider l'équipe. Après, je pense qu'on a vraiment... On a fait tous quand même le boulot sur ce match aujourd'hui. Au milieu, on était assez complémentaires. Et aussi, on a eu un jeune qui a intégré l'équipe cette semaine. Franchement, il a fait un très bon match. Donc, il faut le féliciter aussi pour aujourd'hui.
Votre absence, Alexis, elle a pesé ces dernières semaines. On voit ce Servette qui cale malgré cette excellente saison. On voyait vraiment des envies, des idées se profiler. On commençait à parler un petit peu des rêves qu'on avait, des objectifs pour cette fin de saison. On a l'impression que depuis cet anniversaire, ces 135 ans, il y a comme une équipe qui est un petit peu calée. Et on a un peu l'impression d'avoir le remake de la saison dernière. Est-ce que vous partagez cet avis ?
J'ai pas envie de penser comme ça. J'ai envie de penser qu'il reste des matchs, que tout est possible, il y a des confrontations directes. Donc voilà, il faut se concentrer sur match après match et pas penser directement aux rêves qu'on pourrait avoir. Franchement, penser match après match et tout donner chaque match pour gagner et puis être en haut à la fin du championnat.
Match après match, il l'a placé, c'est dans la boîte. Merci Alexis. Le prochain match, justement, ce sera la réception de Lucerne. Et effectivement, il faut vite oublier cette frustration pour terminer comme il faut cette saison, Johan.
Oui, mais dans la formule de championnat, Servette jouera, on le sait maintenant, contre les 5 du premier groupe. Donc, il y aura des confrontations directes, il y aura des points à aller chercher. On a vu que dans ce championnat, tout est possible. Il y a des périodes qui ont bien été pour Servette, des moments un peu moins. Chaque équipe a eu sa mauvaise période, la balle a sa bonne période, mais c'est pas impossible aussi qu'il cale. Donc je pense qu'il y a tout à donner en fait des espoirs pour que Servette attache ou crée encore le plus de soucis à balle jusqu'à la fin du championnat.
Terminons sur cette note positive. Merci beaucoup Alexis de nous avoir consacré du temps. Merci Johan pour tes analyses. Et puis on donne la parole à Daniel et ses invités en plateau.
Magnifique, merci beaucoup pour cette analyse plutôt servettienne. Pour commencer, est-ce que Servette a dit adieu au titre aujourd'hui avec ce match nul ?
N'a pas encore dit adieu, mais pour moi c'est un résultat négatif. Bâle se retrouve à 6 points avec un goal average supérieur. Donc Bâle doit quasiment perdre 3 matchs et Servette devra en gagner 3. Après, comme l'a très bien dit Johan Lofa, il faut une série. Et les équipes qui ont une série se retrouvent devant. Là, c'est Bâle qui a 4 matchs, 12 points. Ils ont fait un peu l'écart, mais par rapport à Servette, et le match d'aujourd'hui, c'est un derby. Un derby, c'est toujours spécial. On savait que Servette n'allait pas aller à Sion et avoir 80% de possession du ballon. Un bloc bas et une équipe qui jouait la transition en face. En plus, c'est le FC Sion, donc c'était un match très, très important. Mais Servette cale un petit peu quand même lorsqu'elle, cette équipe doit faire le pas vers l'avant. Et au final, ne prend qu'un point aujourd'hui. Et pour moi, c'est trop peu, ouais.
Question de Stéphane Ebi pour vous, Paolo. Elle est un peu délicate, mais je vous la pose quand même. Est-ce que c'est vrai que vous avez été contacté par Servette en 2023 ? Est-ce qu'il y a eu un moment donné où vous auriez pu être le coach de Servette ? Nel 2023, è vero che è stato vicino al.
Nel 2021-2022, se non sbaglio.
Ok.
Sì, ma non ho niente da nascondere.
Ok.
Perché non c'è niente da nascondere, non ho agenti, io non ho procuratori che mi rappresentano, che mettono in giro certe voci, okay. Come spesso capita. Sì, mi aveva chiamato Philippe Senderos quando era direttore sportivo, chiedermi se ero interessato. Poi sono andato all'Aiduc Spalato.
Donc il y a bel et bien eu.
È vero, quindi bravo, ouais. Complimenti, però è.
Mais il s'est trompé d'année.
È un po' prima.
Mais donc oui, il a bel et bien été contacté par Servette, par Philippe Senderos entre 2021-22, oui, exactement. Et
ça m'aurait arrangé peut-être que Paolo arrive. C'est Alain Gaguerre en place.
Plus jouer.
Peut-être j'aurais eu plus de chance.
Ouais, ça aurait pu être votre.
Avresti giocato ancora, quand même.
Non, j'avais arrêté.
Il a dit, il t'aurait fait jouer encore.
Merci.
Un petit contrat peut-être pour Steven Lang à la sortie de l'émission.
Ah, c'est terminé.
Vous avez besoin à Yverdon, non, t'es trop cassé.
Non, Yverdon coulerait ensuite.
On m'invite sur Twitter. C'est Steven Long sera à Yverdon la saison prochaine. Non, allez, on déconne. Juste quand même, Giacomo, on parle de Servette, mais petite parenthèse, autoroute pour Bâle, franchement, avec le résultat de Servette, avec le résultat de IB aussi.
Non, clairement. Et puis, autant, moi, je trouve que c'est une équipe très imparfaite, comme toutes les équipes de tête dans cette Super League cette saison. Mais là, le match qu'ils ont fait hier, on a quand même vu, voilà, classiqueur, claque. Je ne sais pas s'il est historique, mais ils ont quand même allé mettre 4-0 là-bas, 5. Ils ont mis le
4-0,
cinquième,
annulé, et puis après 5-0, 6-0, 7-0 annulé.
Ouais, voilà, trois fois annulé, c'est ça, ça finit 4, j'étais pas sûr. Mais là, ils ont vraiment envoyé un message. Et puis, que ce soit Bâle ou Shaqiri, je trouvais que oui, c'était bien, mais il y avait quand même beaucoup de déchets. Hier, ils m'ont un peu personnellement calmé. Et puis, quand je vois le rythme qu'ils arrivent à garder, C'est le même discours en haut qu'en bas, mais peut-être que tu vas pas être beau tout le temps, mais si tu arrives à prendre des points, même quand t'es pas beau, ça fait la différence. Et puis, on le voit par rapport aux autres concurrents qui calent. IB, ils ont perdu 5 points en 2 journées. Et on disait que c'était peut-être le principal concurrent de Bâle, vu comment ils étaient en 2025.
Bon, et faut qu'on avance, mais je suis désolé, je vais être monstre frustré, mais j'ai encore une question pour Paolo par rapport à ce que tu viens de dire. Paolo, Fabio Celestini a ripreso il Basilea quasi all'ultimo posto, un po' più di un anno fa. Oggi si gioca il titolo. Quel è votre regard? Come conosce Fabio Celestini? O che,
sì, sì, conosco
che,
bene Fabio.
Come vede la sua progressione in questa squadra?
Conosco molto bene Fabio, un bel rapporto. C'è molta stima, c'è sempre stata. Quando io ero a Lugano 8 anni fa e lui era a Losanna. Mi fa molto piacere il lavoro che sta facendo. Questo nasce anche dal fatto che ci sia una continuità nel lavoro. Credo che vista le partite di oggi i risultati sia sulla strada giusta per vincere il titolo. Posso dire che se lo merita, forse è il primo titolo che vincerebbe da allenatore, non so, mi sembra. Sì. Perché ha fatto una gavetta, perché è partito dal basso, ha fatto tante esperienze e oggi si merita questa gioia.
Domanda di Fabio, après je traduis, est-ce qu'il y a un plan anti-Shaqiri puisque Bâle c'est votre prochain adversaire?
Shaqiri...
C'è un piano per metterlo in gabbia? Non esiste, cioè non è impossibile, però c'è un piano?
Di sicuro marcheremo a uomo lui, come andremo a marcare a uomo tutti gli avversari. Bisogna capire con che uomo, se uno alternato, ecco. Ma oggi Shaqiri penso sia il giocatore più forte del campionato.
Shaqiri
ma per distacco, eh?
Ouais, ouais, de loin le joueur le plus fort.
Qualité, mentalité, extraordinaire.
Ouais, qualité, mentalité, et puis sur Fabio Celestini.
Il y a beaucoup d'estime entre les deux hommes, ils se connaissent, et puis il n'est pas surpris du fait qu'il soit monté si haut, parce que voilà, il a aussi mangé son pain noir, il a fait la gavetta, comme il l'a dit. Donc il a commencé en bas, et puis il est monté, et puis aujourd'hui, il le voit aussi bien placé pour le titre, et il est content parce qu'ils se connaissent bien.
Paolo, vous êtes une personne authentique, vous êtes quelqu'un d'authentique et vous aimez les gens authentiques aussi, je crois.
Sì, infatti questo è, qualcuno dice un mio pregio, qualcuno dice un mio difetto, non so che cosa sia, non so se mi porta più vantaggi o svantaggi, ma non mi interessa veramente niente, cioè io sono uno spirito abbastanza libero e ho avuto la mia vita, ho avuto i miei bei momenti, momenti difficili come tutti, però mi piace essere dritto nelle cose, questa cosa non credo che la negozierò mai.
Quelqu'un qui est très droit, il ne sait pas si c'est une qualité ou un défaut d'être authentique, mais pour le moment, ça fait partie de sa vie. Il a eu des bons moments, des moments plus difficiles dans sa vie, mais il est droit dans ses bottes avec cette mentalité-là. Il y a une anecdote, Paolo, dont j'aimerais qu'on discute. Je ne sais pas si vous la connaissez, vous. Nous, on en a déjà parlé une fois dans une interview à l'époque où vous étiez à Sion, mais elle concerne le moment où vous étiez coach de Lugano. Vous aviez, si je me rappelle bien, perdu un match à Thun. Vous étiez rentré à Lugano. Et le matin, vous aviez donné rendez-vous à vos joueurs à l'aube, au Cornaredo. Vous étiez allé voir l'autoroute, les gens, les Italiens qui viennent travailler en Suisse très tôt le matin, qui vont à l'usine, pour montrer en fait à vos joueurs quelle chance ils ont d'être footballeurs, de faire ce métier-là, de pouvoir se lever peut-être plus tard et puis de pouvoir faire des journées comme celle-ci, alors que des gens font des heures de route pour aller travailler à l'usine et des heures de route pour rentrer à la maison. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'avait beaucoup, beaucoup frappé, vous concernant. Le but... C'était de faire prendre conscience à vos joueurs de ces choses-là,
j'imagine. Di cos'è la vita veramente, quello, il senso. Perché oggi, io che ho giocato, ho avuto la fortuna di giocare anche ad alti livelli, oggi che alleno, che probabilmente mi piace ancora di più allenare che giocare, è capitato anche a me quando ero giovane. Perché in un attimo hai tutto, ti cambia la vita, non ti rendi conto, ecco, di dove sei, di quello che stai facendo. Quella è stata una scelta che poi... è stata accompagnata da dei risultati straordinari quando ero a Lugano. Però probabilmente è una scelta che oggi non rifarei.
Perché? Perché?
Perché oggi credo che io sono cambiato, sono maturato e penso che ci sia la possibilità di potergli spiegare eventualmente in altri modi quello che volevo io da quella giornata lì, ecco.
il voulait montrer en faisant ce que tu disais, Dani, il avait amené son équipe voir les gens qui travaillent très tôt le matin pour leur faire comprendre ce qu'était la vie, mais il n'est pas sûr qu'aujourd'hui il l'aurait refait de la même manière. Et puis il a notamment dit que voilà, lui-même, quand il était joueur jeune, il avait eu ces périodes où ben, c'est pas facile parce que tu as tout d'un coup qui tombe dessus, tu es footballeur professionnel, tu as tout ce que tu veux très vite. Et que voilà, il a aussi passé par ces moments, c'est pour ça qu'il a essayé de faire ça avec son équipe. Et puis il a aussi dit qu'il avait. Lui, il a préféré sa période comme entraîneur que comme joueur, je trouve intéressant.
Ouais, et que quand il était joueur, il ne se rendait pas compte, forcément, on ne se rend pas forcément compte de la chance qu'on a, Steven, bah, à d'autres niveaux. On ne se rend vraiment pas compte de on est dans une bulle quand
ouais,
on est
exact.
Joueur de foot.
On est dans une bulle et le problème du footballeur, c'est que c'est un travail quotidien. Et à chaque fois, tu as une remise en question et les bons moments, tu les savoures pas et les moments qui sont un peu moins bons, bah, tu j'ai pas envie de dire que tu les savoures pas parce que c'est peut-être pas le bon terme, mais t'es à chaque fois sur la performance, il faut être bon, il faut être performant, garder sa place, essayer d'avoir un nouveau contrat, et au final tu commences très tôt et quand la carrière se termine, t'as l'impression que ça s'est terminé en une année. Après par contre c'est beau ce qu'il dit parce que il a préféré être coach que joueur, mais je le rejoins totalement. Moi c'est pareil dans mon métier parce que c'est un métier qui est magnifique bien sûr, mais qui est aussi contraignant parce que chaque année, c'est une remise en question et même si tu es en contrat de 3 ou 4 ans, tu sais jamais ce qui va arriver. Donc, je confirme.
Rock Snake voit bien Yverdon surprendre Bâle lundi de Pâques. Paolo, vos origines, Castelnuovo Nei Monti, en Émilie-Romagne. Bah voilà, Nei Monti, c'est la montagne. C'est une région en Italie où il y a des montagnards, des gens qui travaillent beaucoup avec les mains, des ouvriers. Et ça aussi, ça fait partie de vous, ces origines-là, le travail, je me rappelle. Enfin, vous répétez souvent ce mot-là, en plus, il lavore, le travail. C'est une des choses, peut-être, que vous avez même commencé par dire à vos joueurs, à Yverdon, travailler.
Sì. E poi, secondo me, è giusto dargli anche i mezzi per poter lavorare bene, coinvolgere nel lavoro, cercare di essere anche un esempio in quello che gli dici tu, giocatore. Quindi magari anche qualche parola in meno, ma un pochettino più fatti. Cioè, non ti prometto, ma ti dimostro. Queste sono le cose, ma le ho imparate da mia mamma, noi ne abbiamo parlato anni fa quando tu mi avevi fatto un'intervista e la mia base rimane sempre quella, tutti i giorni, quando mi alzo la mattina e vado a lavorare ci penso a queste cose qui, per quel motivo che qualsiasi risultato, qualsiasi momento io passi, so che ne posso venire fuori.
La traduction,
non, que lui, pour lui, c'est la base de tout, le travail. Et il faut donner aussi les moyens à ses joueurs d'être impliqués, en donnant l'exemple notamment. Et puis voilà, il travaille beaucoup là-dessus. Ça a toujours été sa force quand il se lève le matin et il pense à ça. Et puis voilà, c'est vraiment un trait de sa personnalité et qui se répercute sur les équipes avec lesquelles il travaille.
Sacha Bruschetta vous demande, vous durez pas longtemps dans les clubs que vous avez coachés. Ça fait marrer Steven. Ouais, Sacha Bruschetta.
On a fait encore.
La stabilité, est-ce que c'est un de vos objectifs maintenant, de vous installer dans un club longtemps peut-être.
Non. 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 So che mi manca, so che se guardi il mio curriculum, le mie esperienze, non sono stato tanto tempo in un posto, ma ho fatto parte di scelte mie, delle società, dei club. Non sono a ricerca di contratti lunghi, non è quello che cerco nella mia vita. Mi piace stare in un posto finché sto bene, finché so che ci posso stare. Ti faccio una premessa che mi vogliono per le mie qualità di allenatore, vogliono per il mio carattere, tutto quanto, finché poi vanno bene le cose.
Scusa, pensai che c'était fini. Mais on voit la difficulté d'être coach. C'est pour ça que moi, j'ai pas voulu faire ce métier. On voit Fabio Celestini qui prend le FC Bâle, ils sont derniers. Là, il va peut-être faire un doublé, en tout cas, on lui souhaite. Et il y a aussi des discussions sur lui. Donc,
quoi, il resterait pas, ouais.
Quel coach a une durée de vie de 4-5 ans, enfin, comme peut l'avoir Ludo Magna à Lausanne, c'est très, très rare.
Ouais.
Et donc, c'est un monde qui est complètement fou et. Ouais, c'est très très difficile d'être coach actuellement.
C'est pour ça que Paolo disait, il cherche pas forcément la longévité dans un club. Il est là tant qu'on a besoin, enfin pas tant qu'on a besoin de lui, tant que lui se sent bien là et qu'il sent qu'il peut être utile à son équipe, à son club. Est-ce que vous avez des exemples de coach ou de façon de jouer de coach que vous aimez regarder, reproduire? Vous avez des exemples di allenatori che ti piacciono o di stile di allenatori?
Sì. Sì, ce ne sono diversi che ho studiato, che ho guardato, da cui ho appreso e ho avuto anche la fortuna tanti di andare a seguirli direttamente. E a me piace tanto Klopp, soprattutto sulla gestione, sulla presa di responsabilità, sul coinvolgimento con i giocatori, come riesce a dialogare, a trasmettere loro il suo calcio. Ecco, lui, lui mi piace tanto, ma il primo Klopp, ouais. Tornando indietro.
Cioè, addirittura quello di Mainz, di Dortmund, ok, donc Klopp, le coach qui lui plaît énormément, pas forcément que celui de Liverpool, celui de Mayence, celui de Dortmund, pour aussi toute la manière de gérer ses équipes et ses joueurs. Pas de questions, mister, mais juste les salutations de la part d'Ariane Kabashi, qui nous envoie un petit bonjour, une petite main levée pour vous. On lui passe le bonjour aussi. Lui, c'était un guerrier. Lui, il ne triche pas. Hein. C'était aussi un grand travailleur.
Guerriero albanese. Ouais. Albanian power.
Ouais, exactement. Oui. Albanian power, je fais la transition parce que voilà, c'est là que j'avais envie d'arriver aussi, parce que je prépare mes émissions. Vous avez été à l'Euro 2016 avec l'Albanie. Vous étiez l'assistant de Giovanni De Biasi. Qu'est-ce que vous gardez de cette expérience? Vous avez quand même joué contre la France qui organisait l'Euro, contre la Suisse aussi. Qu'est-ce que vous gardez dans votre sac à dos de cette expérience-là?
È stato bellissimo professionnellement, parce que c'est stato storico. È stata la prima volta dell'Albania in una competizione europea. Ma poi è stato ancora più bello per le emozioni che percepisci, che hai regalato a un popolo intero, ecco. Quindi c'è dentro un po' di storia, un po' di umanità, un po' di valori, e poi c'è il calcio che ha fatto sì che si creasse questa situazione. Ricordi bellissimi.
Des très beaux souvenirs, surtout aussi parce que c'était la première fois pour l'Albanie, puis le foot évidemment a fait se réunir tout ce peuple albanais. Vous avez joué contre la Suisse, vous aviez perdu 1-0, but de Fabian Scher, si je me rappelle si. Bien.
Avec la tête.
Après au tout début de match, je crois, très vite. T'as vu la mémoire?
Mijen Pacha était convoqué? Il était là?
Oui,
Mijen
oui. Pacha, ouais. Dans le 23, oui, Mijen. Il était c'est important Mijen. Pour nous, pour la qualification. Ouais. J'ai recordé dans le match, hein.
Ouais.
Le notre capitaine Rixana est là pour rendre le carton rouge. Ouais, ouais. Second temps, nous avons joué en 10 ouais. Et son mari l'a fait de miracles.
C'est juste.
De miracles.
Je m'en souviens.
Contre Armando Sadiku et contre Skelsen Gashi.
Ouais.
La dernière minute.
Je me souviens très très bien. Parle de Lorik Sana, je ne peux pas ne pas parler du FC Chezo. C'est là où Lorik Sana a commencé sa formidable carrière. Après, il est allé à Lausanne, à Marseille.
T'es obligé de le placer, ça.
Mais oui, parce que sinon, on m'en veut après. Chezo est le popolo dove, il paese dove vivo. Mister, vu que vous avez joué contre la Suisse, aujourd'hui, vous pouvez peut-être nous dire, on sait que il y a beaucoup d'Albanais en Suisse, il y a des joueurs d'origine albanaise. Est-ce que vous aviez dans le vestiaire, vous ou le coach, essayer d'utiliser cet argument-là pour ce match-là, le côté psychologique, le côté racine. Les radici dei giocatori albanesi che giocano nella nazionale svizzera o dei giocatori albanesi che conoscono i giocatori della Svizzera?
I giocatori albanesi, poi a me è capitato di allenare tanti giocatori comunque dell'Albania, del Kosovo, della Macedonia, della Serbia, della Croazia. A me piace tantissimo il carattere che hanno loro, la personalità che hanno loro. Carattere e personalità non hanno paura di niente.
Ouais. Ouais. Le carattere, la personalità, évidemment, des Albanais, c'est ce qui lui a toujours fait plaisir et c'est ce qu'il a toujours beaucoup aimé. Bon, Paolo, vous êtes entraîneur, vous avez dit que vous avez aussi joué au foot. Vous avez joué longtemps au foot, vous avez joué dans plusieurs équipes, plein d'équipes, l'Inter, l'Atalanta, Tottenham. Et on a des images de vous il y a quelques années. Je les ai trouvées, elles sont là, regardez.
Ah, quoi, Piacenza?
Voilà, Piacenza, exactement. C'est votre arrivée à Piacenza.
Mais ça, c'est les capelles.
Mais c'est ça. Et j'allais vous dire, regardez, vous avez déjà vos beaux cheveux, vos magnifiques cheveux qui me rendent tellement jaloux à 25 ans.
25 ans là, sur la.
Oui, vous étiez passé de Cesena, vous aviez fait une super saison à Cesena et vous êtes passé à
Piacenza en Serie A.
Voilà, exactement. Moi je me suis un peu renseigné, j'ai fait quelques coups de fil, j'ai appelé des gens. Vous étiez un latéral relativement offensif, hein. On n'avait pas l'habitude de voir Sembri Amaury. Tu ricordes bien Amaury?
Vous voyez pas que Amaury de Palerme, bah oui.
Amaury de Palerme, moi. quand je le vois, je pense à Amaury. Bon, vous étiez très offensif, c'était pas encore autant ancré le piston hyper offensif ou le latéral hyper offensif à l'époque. Eri un comme si dit si,
piston,
si,
hein.
Si però molto offensivo, offensivo si, si, si. Si c'est comme ça que vous avez construit votre
sì
votre...
mi piaceva attaccare. Io nasco nel settore giovanile dell'Inter, però giocavo centrocampista E poi ero in prestito a fare la gavetta in Serie B a Cosenza, allenatore di Reia, mi mise a giocare laterale sulla fascia e sì, mi piaceva molto, mi piaceva correre. La fortuna che ho avuto io di giocare a certi livelli era per, proprio per il temperamento, la corsa, la quantità, quelle cose lì.
La quantità, la qualità, il aimait beaucoup courir, et effectivement c'était un latéral déjà relativement moderne. Vous avez joué avec Bergomi, avec Dzenga, avec Bergkamp, vous avez joué contre Cannavaro, contre Ferrara, contre Zola, contre Maradona. Avec Cosenza en coupe,
oui,
1990.
3-0
et 2-0, je crois. Enfin, en tout cas, vous avez. Voilà. Là, c'est une question de Alex 1400. Ça fait quoi d'avoir côtoyé Maradona, d'avoir joué contre Maradona?
Sono i giocatori bravi. Ci sono le categorie nel calcio. Giocatori, allenatori, giornalisti. Quelli mediocri, quelli bravi, i fenomeni, e poi ci sono quelli di un altro livello. E Maradona era di un altro. Io ho avuto la fortuna poi di giocare con giocatori forti, contro giocatori forti, di quei livelli lì, Ronaldo, il brasiliano. Però Maradona è di un altro livello. Poi ci sono gli altri, compresi quelli che giocano ancora adesso. Messi, Cristiano Ronaldo.
C'est clair. Il y a plusieurs catégories de joueurs dans le football. Il y a ceux qui sont médiocres, il y a ceux qui sont plus haut, etc. etc.
On va pas demander dans quelle catégorie.
Steven Lang, il était dans la catégorie.
Alta.
Alors, il m'a un peu flingué un truc parce que j'avais préparé un truc assez sympa. Parce que je sais pas si vous étiez au courant qu'il a quand même joué contre le Fenomeno. Ronaldo, c'était en mai 1998. Et du coup, il m'a un peu flingué ma transition. J'avais deux, trois questions à.
Contre qui nous on a joué
ou... Exactement. Est-ce que tu as déjà joué contre Fenomeno? Non. Mais lui, oui. Malheureusement, exactement. Avec Piacenza, vous étiez le piston gauche. Et lui, on a entendu tellement de fois des joueurs comme Nesta, Cannavaro, Maldini qui disaient c'est. Un joueur qu'on ne pouvait pas arrêter. Il allait trop vite, il était trop fort techniquement, il était impossible à arrêter. Vous le confirmez, j'imagine?
È impossibile. Ma anche volendolo fermare fisicamente, facendo un fallo tattico, un'ostruzione, non riusciva a prenderlo.
C'est assez fou, parce qu'en fait, c'est tout le monde, c'est le même disque, quoi. Tout le monde raconte la même chose.
Mais il n'avait pas d'exemple avant lui. C'est lui qui a inventé les passements de jambes, les petits dribbles, les râteaux, tout ça. Et c'est vrai que c'est, pour moi aussi, le joueur le plus complet de l'histoire du football.
Allez, on va passer au Lausanne Sport. On a quelques minutes pour parler juste du Lausanne Sport, puis après on va faire un petit jeu pour terminer. Le Lausanne Sport qui a perdu contre Winterthur hier soir sur le score de 1-0, c'était à la Schützenwiese. Défaite sans grande conséquence, ça aurait pu être pire, puisque Zurich a aussi perdu contre Bâle. On sent, Steven, une équipe qui est quand même usée mentalement. Ce LS est usé mentalement. Il y a eu tellement de péripéties depuis le mois de janvier.
La saison devient longue pour Lausanne. Après, j'ai l'interview de Ludo Magna, il le dit aussi, il faut arrêter de comparer le LS de 2024 au LS de 2025. On parle beaucoup de la blessure d'Alvin Sanchez, qui était le leader offensif. Je trouve, moi, qu'on ne parle pas du tout de l'absence de Bernhard, qui était peut-être le meilleur milieu de terrain
pour moi, c'est ça.
En Suisse. Voilà. Quindredi est très bon, Custodio aussi, mais Roach aussi, excusez-moi, mais ce n'est pas du tout du niveau de Bernhard. Et puis, il y a cette défaite à Winterthur. Alors on sait que c'est pas facile d'aller jouer là-bas, mais quand même, là, Lausanne n'a plus son destin entre les mains. Ludo Magna se doit d'être positif après le match, c'est normal, parce qu'il reste encore un match, mais il faut quand même pas mal de choses pour que Lausanne puisse rentrer dans le top 6.
Lausanne devra gagner contre Lugano et Zurich devra perdre contre IB. Giacomo, ce sera la seule question concernant Lausanne pour qu'on puisse passer à la suite. On a tout le temps entendu ces dernières semaines Ludo Magna parler de finale. On va jouer 5 finales, on va jouer ce match comme une finale. Ce match, c'est une finale. Ce match-là, on le prend comme une finale, etc., etc., etc. Mentalement, c'est pas jouer une finale. Tu joues normalement une finale. Tu joues la finale de la Coupe du Monde, la finale de la Ligue des Champions. Là, quand en fait, t'enchaînes les finales, peut-être que ça se ressent aussi. Après, on voit des joueurs quand même lessivés.
Tu dis aussi par rapport au discours, parce qu'ils entendent tout le temps la même chose. Ils ont peut-être pas le même stimuli que.
C'est-à-dire que t'enchaînes les finales. En fait, le discours, c'est tout le temps le même. Et dans ta tête, peut-être qu'au bout d'un moment, jouer 5-6 finales consécutives, c'est compliqué.
Non, c'est clair. Et puis, de nouveau, ils sont pas aidés. C'est vrai qu'il y a des absences comme Bernhard. Mais Alvin Sanchez, typiquement, son absence, il marquait beaucoup de buts aussi. Il statait beaucoup. Et il permettait à l'équipe d'aller faire ses petites victoires 1-0. Il débloquait les rencontres. Et avec son départ, on voit que, le retour d'Aliou Baldé n'est peut-être pas aussi prolifique qu'on l'aurait espéré. On voit finalement Aydini, Kalisen, même Oviedo qui a été rappelé alors qu'il était complètement à la cave en M21 au premier tour. Ils n'arrivent pas à être autant à la hauteur et puis forcément il manque quelqu'un et ils ont du mal à transformer tout ça. Alors la semaine dernière contre Sion, il y avait eu Teddy Okou, la semaine d'avant encore, il y avait Teddy Okou qui avait débloqué avec le but de Diabaté, mais c'est de plus en plus dur de trouver des solutions offensives pour débloquer les matchs. Et forcément, dans ces matchs qui sont des finales, tu peux ne pas le prendre, mais même quand t'es bien parti pour pas le prendre, il peut y avoir des épisodes comme hier à Winterthur où tu prends le but et après t'as du mal à réagir.
Il y a Pascal Duvoisin qui dit début 2025, qu'ils étaient encore présents, on était déjà nuls. Magnin fait n'importe quoi avec la composition de l'équipe et ses changements. Pas facile d'être entraîneur, franchement, quand on est assis derrière son clavier.
mais moi, j'aime bien ce que disait Paolo tout à l'heure. Il disait qu'il a préféré être entraîneur et puis aussi, il n'a pas envie forcément d'être dans un confort, dans un long terme. In un progetto dove sai che per forza stai lì a lungo. Parce que peut-être que c'est cette remise en question perpétuelle qui l'anime. On voit là le commentaire sur Ludovic Magnin, alors que c'était un génie à Noël quand il était premier. Paolo, a lei piace questo fatto di sempre essere giudicato partita per partita, di tra parentesi un po' rischiare il posto ogni weekend perché quello che la stimola a allenare?
Mi piace perché non è quello che mi stimola per allenare, non è che mi stimola allenare perché ogni partita so che rischio, ma sono rischi calcolati. Mi piace ragionare partita per partita, mi piace pensare giorno per giorno, questo sì, ma anche come allenatore lo faccio molto e non ho bisogno di avere il comfort di sapere che sto 2, 3, 4 anni in un posto, non ho bisogno né a livello contrattuale e non ho bisogno perché non mi dà niente di più, mi fa star bene, mi motiva molto il fatto di fare qualcosa di nuovo, imparare qualcosa ogni giorno, dare qualcosa ogni giorno ai miei giocatori. Quello è quello che mi spinge, il fuoco che ho dentro mi nasce da quella cosa lì. Per quello che non mi piace pensare a giugno, tra un anno, tra due anni. Tra due anni nessuno di noi sa che cosa farà, cosa succederà nella vita. Quindi non voglio perdere tempo pensando a cose che oggi non ho bisogno di pensare.
Je me suis appuyé sur ce que disait tout à l'heure Paolo Tramezzani par rapport au fait que lui, il ne cherchait pas forcément des contrats plus longs, vu qu'il a souvent fait des missions temporaires ces temps. Et puis je lui ai demandé si, voilà, par rapport à ce commentaire sur Ludovic Magnin, où il était très critiqué avec cette remise en question de l'entraîneur de Lausanne, qui peut arriver, est-ce que c'est ça aussi qui l'anime, qui lui donne ce feu d'entraîner? Il a dit pas forcément. Lui, ce qu'il aime, c'est aussi le contact quotidien avec ses joueurs, mais voilà, qu'il ne recherchait pas forcément les contrats longs, pour un peu préciser sa réponse de tout à l'heure.
Ouais, voilà. Et puis il y a plusieurs commentaires sur notre page YouTube qui vont justement à l'encontre du commentaire qu'on vient de vous lire. Stop au Magnin bashing. Il y a plusieurs supporters qui sont plutôt en faveur de Ludovic Magnin et je suis assez d'accord avec eux. Laissons-le travailler, laissons-le finir cette saison et puis on fera les comptes à la fin comme d'habitude. On passe à la Ligue des Champions. Il reste très très peu de temps et messieurs, j'avais vraiment vraiment envie de discuter quelques instants. Ce sera malheureusement que quelques instants de la qualité des matchs qu'on a vus cette semaine en Ligue des Champions, mardi, mercredi. Quelle intensité, quelle qualité dans les gestes, dans les buts qu'on a vus, dans les passes claquées, dans tout ce qu'on a pu voir. Franchement, je n'ai pas le souvenir d'avoir vécu un mardi et un mercredi aussi kiffants. Je ne sais pas si c'est aussi ton cas.
Comme disait Paolo tout à l'heure, dans le football, il existe les catégories.
Ouais.
Et puis là, on a vu ce que c'était une autre catégorie parce que les exploits individuels, techniquement, il y a tout qui va trop vite. Les joueurs qui sont sur le terrain, ce n'est pas pour rien qu'ils coûtent 100 millions. Voilà. Donc, Declan Rice qui te met un coup franc télécommandé, il ne te le met pas une fois, il te le met deux fois. C'est de la folie. Et franchement, c'est clair que tu te régales et tu as l'impression, par moment, encore plus quand tu es au stade, que tu regardes un autre sport. C'est vrai qu'on a été vraiment gâtés, Dani. On arrive dans les quarts de finale, donc il ne reste que les meilleures équipes, mais on a pris notre pied, clairement.
Flavio dit Lautaro, très sous-coté à mon avis. Il y a Grégory Gouma, quelle qualité du jeu côté parisien. Rocksnake, enfin des super matchs de Champions League. Grégory, le PSG, grand favori pour moi en Ligue des Champions. Et Sommer, il ne faut pas oublier Sommer. Flavio dit meilleure défense, l'Inter, et meilleur jeu d'équipe et meilleur entraîneur aussi. L'Inter va gagner, Dani dit Flavio encore. Alors on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça, c'est dommage, on n'a plus beaucoup de temps. Moi, je vous avais proposé de venir avec des questions un peu cash comme ça, qu'on voulait, on voulait faire un peu style récréation, et on sort des immenses bêtises, mais on doit quand même réussir à argumenter. Donc moi, je vous sors la première, si vous êtes d'accord, et je vous dis, le Real va se qualifier, le Real va se qualifier et va sortir Arsenal.
Et tu as raison.
Je pense très intimement que s'il y a une équipe au monde capable de renverser Arsenal et de renverser un 3-0 à la maison, c'est bien le Real. Le Real a déjà réussi à mettre deux buts dans le temps additionnel d'un match plus d'une fois. En 90 minutes, il faut en mettre trois. Et j'ai l'impression, Mister, que le discours de Mikel Arteta peut être déterminant. Parce que l'adversaire sait aussi que le Real peut marquer trois fois. Alors en fait, le discours, c'est ne croyez pas que le Real peut faire ça, et s'il arrive à mettre ça dans la tête de ses joueurs, peut-être que ça peut fonctionner.
Oui, peut-être. Le Real, elle est une équipe qui peut faire tout qu'elle veut. Il n'est pas un match facile, parce que il n'est pas facile de jouer quand tu as seulement un résultat et tu as des être parfait. Ouais. Mais l'équipe parfaite non existe. Ouais. Et il n'existe pas le match parfait. Mais il est difficile.
Mais il restera Mbappé, il restera Vinicius, il restera Rodrigo, il restera Bellingham.
Il ne peut pas donner ce message à son équipe. Même si c'est ce qu'il va faire en avant-match, il ne peut pas. Parce que les joueurs le savent inconsciemment. Ils savent que c'est le Real. Déjà, bon, j'ai jamais eu la chance. Bah oui, j'ai visité le stade, mais il était vide. Parce que voilà, je fais un petit tour touristique.
Mais déjà vide, t'es d'accord que c'est impressionnant?
Déjà vide, c'est impressionnant. Mais les joueurs, lorsqu'ils vont entrer, j'ai entendu des joueurs qui ont joué dans ce stade. Rien que le fait d'entrer sur la pelouse, de savoir que c'est le Real Madrid en face, 80 000 spectateurs. En plus, il y a le toit maintenant qui donne une ambiance particulière.
Le son, c'est dingue, le son.
Et surtout, s'il y a une équipe qui peut le faire, c'est le Real. Il se passe quoi si après 20 minutes, il y a 1-0? Les joueurs vont encore plus paniquer. Ça va être un match très, très spécial pour Arsenal. Pour moi, ce n'est pas les Gunners qui ont les clés. C'est le Real. Si le Real joue son jeu, met la pression, moi, j'y crois.
Tu crois aussi?
Et puis, tout le monde fait des blagues avec ce Real Madrid. Il y a toujours des épisodes, comme avec en huitième de finale, avec Alvarez qui glisse, des choses qu'on n'a jamais vues. Donc, on peut vraiment s'attendre à tout. Et puis, comme Steven, s'il se passe quelque chose dans les premières minutes, après, il n'y aura plus que deux buts. Et puis, Dani, tu as raison. Quand tu dis que s'il y a bien une équipe qui peut le faire, c'est le Real Madrid. J'ai vu un Arsenal aussi décroché en Premier League qui a tellement bien fait à l'aller que moi, je me dis, si je devais donner un pronostic, je ne mettrais pas le Real qui passe. Mais en étant conscient que ça serait presque même pas une surprise de les voir renverser la table.
Et on voit comme le monde du foot, encore une fois, est cruel. Le Real est quoi, a remporté 6 des 10 dernières compétitions, des dernières Ligues des Champions. Là, ils en prennent 3, ils sont en quart de finale encore. Ils en prennent 3, il y a un match retour et on fait que de critiquer les Bellingham, les Rodrigo, les Mbappé.
Et l'année passée, ils ont tout gagné, à part, si je dis pas de bêtises, à part la Coupe du Roi, ils ont tout gagné, tout ce qu'ils pouvaient gagner. Et c'est incroyable comme le supporter,
l'exigence,
oublie vite quand même ce qu'on fait. Quoi. Moi, j'aimerais bien être supporter du Real et faire une fois de temps en temps qu'un titre de
moi,
temps en temps.
J'aimerais bien être joueur du Real.
Mais bon, joueur du Real. De toute façon, mieux. Tu finis à Yverdon la saison prochaine.
Je ne sais pas si c'est bien pour Yverdon.
Grazie mille, Giacomo Venuto. Merci pour l'invitation. Steven Long signe à Yverdon la saison prochaine. Merci Giacomo pour les traductions et pour toutes tes interventions, qui sont toujours très, très riches. Merci à vous. La Champions League, l'Europa League, les matchs retour des quarts de finale, c'est dès mardi et jusqu'à jeudi sur Blue Sport. À très vite. Ciao.